Puis le mec surtout ne veut pas mourir quoi.
Putain, c'est ça tombe de partout là autour et lui
il s'en bat la race.
95 ans.
Ouais, je crois que c'est ça, 95 ou 96, je sais plus, ouais, mais.
Ouais.
95, ouais. Ben, oui, enfin, 96, le 31 mai. Il aura.
Oui.
Putain, 96, le mec.
C'est ouf, hein.
Ouais. Ouais, lui, il veut pas mourir. Il est immortel.
Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Comment ça va? Je disais, c'est loin, mais c'est beau.
Mais personne dit ça. Jamais de la vie.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
C'est de vous la phrase, vous l'avez entendu ça?
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok?
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Baby Graveurs, votre podcast cinéma. Aujourd'hui, nous sommes en mode Boats, Based on a True Story, une discussion ouverte sur un film inspiré d'une histoire vraie ou de faits réels. Et ce qui est bien avec ce type de film, c'est que plus tu en cherches, plus tu en trouves. C'est un filon presque inépuisable. Je suis Thorhead et dans cette aventure, je serai accompagné aujourd'hui de mon ami Storm. Salut Storm.
Salut Thomas, ça va?
Ça va bien et toi?
Bon écoute, ça va avec ces super chaleurs, comme tu dis, un temps pour nous quoi.
Exactement, sale temps pour les gros. mon ami Storm, qui est donc une cheville ouvrière du podcast L'Antre de la Peur, yeah. Et de date de sortie.
C'est cela.
Ben aujourd'hui, bienvenue sur le rocher. Non, on va pas parler de rock. Désolé, Jess.
Ah bah oui, mais après, ils nous auraient dit « Ouais, c'est la meilleure BO du monde !»«
Ouais, c'est la meilleure BO du monde !»« Ouais, ouais, tout ça, Nicolas Cage !» Ben non, on va parler d'un film un peu meilleur que rock. J'ose le penser quand même.
Oui, ouais. C'est pas pareil, mais...
Ouais, c'est pas pareil, mais... On va parler de L'Évadé d'Alcatraz. Bande annonce.
Alcatraz, The Rock. No one has ever escaped from this prison. This is Frank Morris. Armed robbery, burglary, grand larceny. Morris has escaped from many prisons. But Alcatraz could be the exception.
I smell something burning.
Hmm? I'm looking for a new punk.
Good luck.
You don't understand. I just found her.
I guess anything you want bad enough is worth the chance.
Including busting out.
Some men are destined never to leave Alcatraz. Alive.
This island is solid rock.
No one's ever busted out.
No one's ever made it.
Since I've been warden, a few people have tried to escape. Most of them have been recaptured. Those that haven't have been killed.
I may have found a way out of here.
No one has ever escaped from Alcatraz.
I'm in.
Me too. And no one ever will.
There are 12 counts every day. One long count. We count the hours.
Tuesday night we go.
Shake down.
The bulls count us, and the king bulls count the counts.
No one has ever escaped from Alcatraz, and no one ever will.
See you later, man.
Goodbye.
And no one ever will.
In 1962, that statement was no longer valid. Clint Eastwood is Frank Morris in Escape from Alcatraz.
Alors, L'Évadé d'Alcatraz. Donc on va prendre la fiche technique, hein, et puis comme je te disais tout à l'heure, évidemment, tu interviens quand tu veux. Hein,
pas de souci.
Titre original, Escape from Alcatraz, donc L'Évadé d'Alcatraz. Oui, ça, alors, dans le titre français, Clint, il est tout seul hein, à se barrer. Hein,
ouais, c'est vrai,
Il n'y a pas de problème.
Hein. Alors que oui, ils sont un peu plus.
Ils sont quand même 4 sur le projet, 3 à se barrer.
3 qui réussissent. Ouais.
Voilà. Réalisation, c'est un film de Don Siegel, une participation non créditée de Clint Eastwood pour la fin du film.
Bah, et puis pour plusieurs choses même.
Ouais, ouais, pour d'autres choses, ouais, effectivement, notamment, ouais, côté prod, ouais. Don Siegel, il a fait quoi? Alors, il a une grande filmo, j'ai retenu certains films un peu plus emblématiques de sa filmo. L'invasion des profanateurs de sépulture.
Ah bah ouais, forcément.
Les proies, l'inspecteur Harry.
Ouais, bah, bien sûr.
Avec Clint, proie aussi, d'ailleurs. Le dernier des géants et l'évadé d'Alcatraz.
Bah, de toute façon, avec Clint, il en a quelques-uns, quand même.
Ah, ils en ont fait quelques-uns ensemble, hein, ouais, ouais. Scénario de Richard Tuggle d'après un livre documentaire qui était paru en 63, donc un an après l'évasion. De Franklin Morris et des frères
et des frères Anglin.
Anglin. On va les appeler Anglin ou Anglin,
comme tu préfères. Ouais, Anglin, ça fera plus classe que Anglin. Allez,
une musique de Jerry Fielding, budget du film 8 millions de dollars.
Ouais. Alors, est-ce que t'as les recettes internationales, toi? Parce que j'ai pas réussi à les trouver.
Ouais, j'ai les recettes internationales. Il a gratté 43 millions de dollars dans le monde.
Ah, ben moi, en 43, j'ai cru que c'était que le domestique, d'après ce que j'avais trouvé.
Ah, tu veux dire US?
Ouais, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était que le US.
Ah, d'accord. Ah, ben. Alors, ben
d'après ce que j'ai compris. Monde, hein.
Mais, ah, ouais, mais c'est. Bon, bah écoute. Je dirais, bon, c'est.
On va dire que dans tous les cas, ça a fonctionné.
Il a fait la culbute, il y a pas de problème.
Ouais, s'il a déjà 43 millions rien qu'aux États-Unis.
Et en France, un petit million d'entrées, 930 000 entrées France.
Ce qui est pas forcément si énorme que ça pour l'époque, mais bon, c'est correct. Enfin, par rapport à maintenant, c'est beaucoup, hein, parce que putain, des films qui font le million maintenant, il y a quand même de moins en moins, je trouve. Hein. J'ai l'impression que
Netflix, les plateformes, hein, c'est la faute, on sait bien. Hein.
Ou la qualité du cinéma, peut-être tout simplement.
J'allais le dire.
Ah, on va passer pour des vieux cons.
Ouais, de toute façon, c'est ça. On fait un podcast de daron, de toute façon.
Ouais.
C'est un film qui est sorti en juin 79 aux États-Unis et octobre 79 en France. À la distribution, Jean Lagache. Pardon. Clint Eastwood, évidemment.
Le patron.
Le patron. Bah, qui joue le personnage principal, hein,
c'est ça.
Frank Morris. Patrick McGowan qui joue le directeur de la
Warden,
prison.
Ouais. Le directeur Warden.
Putain, dans mon souvenir, on le voyait beaucoup plus que ça dans le film.
Ouais,
j'ai
alors
regardé
qu'en fait,
effectivement cette semaine pour les besoins de l'émission, mais j'avais regardé le film il y a 4-5 ans et je pensais qu'on le voyait beaucoup, beaucoup plus.
J'ai l'impression que c'est souvent dans les. Enfin, non, peut-être pas, parce qu'il y a des. Non, j'allais dire, dans les films de prison, c'est souvent, bah, déjà que t'auras le cliché du directeur qui est un sale con. mais souvent, il marque, le directeur te marque, mais quand tu revois le film, tu te rends compte que tu le vois pas si souvent que ça, des fois.
Ouais, non, il a un rôle très petit, très mineur, en fait. Hein.
Ouais, 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 clairement.
Jack Thibault qui joue Clarence Anglin, Fred Ward qui joue John Anglin. Ah,
Fred Ward, j'aime beaucoup Fred Ward.
Bah, il a une gueule.
Ouais, et puis en filmo, moi j'aime bien. Bah, forcément, il est dans Tremors, moi j'adore Tremors. Remo aussi, c'était vachement bien. J'aime bien. Bonne tête, Fred Ward.
Ryan Keane qui joue Charlie Butts. Alors, nom de personnage, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais nom de personnage qui a été inventé.
Ouais, c'était pas le nom de, comment dire,
du protagoniste, voilà. Ouais, qui est resté en prison, qui devait s'évader avec eux, qui s'appelait Allen West, ouais, tout à fait.
Ouais, c'est ça, Allen West, et je sais pas pourquoi ils l'ont. Ouais.
Et je pense, j'ai pas trouvé l'explication exacte, mais je pense que c'est parce que quand le film a été tourné, il était encore vivant.
Ah, une histoire de droit alors peut-être.
Peut-être qu'il a pas accepté qu'on mette son vrai blaze dans le film.
Parce
que. Comme les trois autres, ben on en parlera, n'ont pas été retrouvés.
C'est sûr que pour leur demander leur avis.
Voilà, c'est beaucoup plus, comme disent les gars de Nanarland, si vous devez négocier des droits de film un jour pour diffuser des films, choisissez les gens qui sont morts.
Ah, c'est
beaucoup plus facile.
C'est pas faux.
Pour la distri principale, c'est ça, mais j'ai quand même noté la présence d'un petit gars qui allait devenir connu dans les années 80, qui s'appelle Danny Glover.
Ouais.
Qui a juste un rôle de figurant dedans, il doit dire une phrase, il doit dire une phrase maximum dans le film.
C'est clair. Et j'avais même pas tilté au tout départ, moi, en plus.
Que c'était lui?
Ouais, j'avais pas fait gaffe sur le coup, tu vois. Et c'est après, je dis le bordel, je dis, putain, Danny Glover, hop, tu rebalances le film. Tu...
ah oui, il est là. Ouais, enfin, il explosera effectivement que 8 ans plus tard, ouais. avec
l'arc fatal. Fatale.
Et donc, ben, comme on est dans Boats, basé sur une histoire vraie, et ben voilà, qu'est-ce qu'il raconte ce film? Ben, il raconte l'histoire vraie de Frank Morris, donc qui est un détenu qui s'est
Alors le film le précise pas, mais je crois que c'est
un braqueur. Ouais, c'est ça. Dans le film, il s'est évadé. Et c'est pour ça qu'il se retrouve à Alcatraz. Voilà.
Et c'est pour ça qu'il se retrouve à Alcatraz, parce que c'est à l'époque les Supermax, tout ça, ça n'existait pas, mais
non, on envoyait là-bas.
On ne s'évadait pas d'Alcatraz.
Du rocher, non.
Ceux qui étaient des terreurs dans la société américaine étaient envoyés en prison, et ceux qui étaient des terreurs en prison étaient envoyés à Alcatraz.
À Alcatraz, c'est exactement ça.
Voilà. Et donc, il est envoyé à Alcatraz en 1960. Alors effectivement, quand on est au courant de la chronologie, on repère quelques petites tailles qui te permettent de te resituer dans le temps. Mais parce que à part au départ, quand il arrive
au début, en plus il arrive de nuit,
c'est marqué qu'on est en 1960.
Ouais.
Et il est convoqué dans le bureau du directeur. Et il y a le portrait de Dwight Eisenhower au mur.
Ouais, et puis il n'y a pas Nixon aussi ?
Et il y a Nixon en tant que vice-président, effectivement. Et un peu plus tard, il retourne dans le bureau. Il y a une autre scène dans le bureau du Warden un peu plus tard. Et tu sais que tu as changé d'époque, tu as changé d'année, parce que c'est le portrait de Kennedy qui est affiché au mur. Voilà. Et donc, de toute façon, il s'évade pendant la période de présidence de Kennedy. Et pour la petite histoire, alors, est-ce que c'est une conséquence de l'évasion? Alcatraz sera fermé l'année suivante.
Alors, il laisse, enfin, après, c'est toujours un peu peut-être du mythe et de la légende. Il laisse sous-entendre que ça aurait,
que c'est à cause de ça.
Voilà, que c'est un peu à cause de ça que, déjà, le président, le directeur s'est fait jarquer de ses fonctions après ça. Et oui, peu de temps derrière, la prison est fermée. Donc bon, on va dire que si c'était prévu, ça tombe bien. Ça fait la légende en plus, quoi.
Ils s'en sont servis. Ce qui n'était par contre pas du cinéma, c'était le coût d'entretien et de fonctionnement de la prison.
De la prison.
Qui était absolument démentiel. Parce que, en fait, chaque prisonnier coûtait par jour quasiment le prix d'une chambre d'hôtel 4 ou 5 étoiles dans un hôtel de luxe, quoi.
C'est ça. Et puis, comme je disais, c'est que des cellules individuelles, en plus. Tu te dis donc chaque... Alors, pour le coup, je pense que c'était peut-être un peu mieux d'un certain point de vue pour eux. Mais... Enfin, quoi que les cellules sont minuscules, mais... Mais c'est vrai que tu te dis putain, une prison où les mecs sont tous en cellule individuelle, je pense pas qu'ils doivent en avoir beaucoup quand même.
Ouais, à part aujourd'hui peut-être justement les prisons de sécurité maximum.
Oui, les hautes sécurités, les trucs vraiment les trucs ultra
Mais en plus voilà, il y a jamais eu enfin ça a jamais été une grande prison, enfin moi non. J'ai eu la chance de la visiter quand on est parti faire notre petit voyage là aux États-Unis. Parce que bon, quand tu vas à San Francisco, quand même, si tu
tu vas aller voir le rocher quand même, ouais.
Ouais, t'as raté une partie de la visite quand même, hein, je pense. Effectivement, elle contenait 200-250 prisonniers
en tout.
Je crois qu'elle en a accueilli 300, tu vois, mais c'était pas.
Ce qui est vraiment pas beaucoup.
Non, ce qui est vraiment pas beaucoup. Quand on regarde, voilà, ceux qui veulent regarder un plan ou une vue aérienne de la prison. La partie réservée aux prisonniers, c'est le bâtiment central où la cour extérieure est attenante. Et c'est le seul endroit en fait où les prisonniers étaient. Tout le reste en fait n'était que des bâtiments administratifs et de vie pour les gardiens. Et certains avaient même des endroits
des appartements.
Où ils pouvaient accueillir des appartements où leur famille pouvait vivre. Et je crois qu'il y a peut-être un endroit atelier type atelier mécanique ou autre qui était un petit peu séparé de la partie prison, mais voilà, le plus grand bâtiment effectivement n'était que l'endroit où les prisonniers passaient le plus clair de leur temps. Réfectoire, douche et
chambre comprise.
Nourri, logé, blanchi.
Ouais.
Tout ça pour dire qu'effectivement l'histoire raconte donc l'évasion qui commence à être planifiée par Maurice quasiment au moment où il arrive fait du film ou pas il chourave un coupongle
au directeur Warden
au directeur et c'est grâce à ce coupon qui commence un petit peu à gratter les murs pour voir si le ciment est de bonne qualité ou pas quoi.
Ouais, puis ce qui est bien, c'est que... Alors après, pour le coup, c'est tiré d'une histoire vraie, mais ce qui est bien, c'est qu'ils t'expliquent le pourquoi. Ils te disent que du fait de l'eau à l'humidité, au sel, parce qu'ils utilisaient de l'eau de mer pour les canalisations, pour les tout ce qui était toilettes et compagnie. Ouais. Donc que tout ça permettait d'attaquer le béton qui s'effritait, machin et tout. Donc tu te dis, c'est bien. C'est expliquer le pourquoi, c'est pas ça sort pas de nulle part quoi.
Non tout à fait, il avait probablement potassé le truc ou lu des trucs là-dessus et tu le vois d'ailleurs pendant toute la partie évasion derrière où effectivement quand il s'occupait de barreaux ou de parties métalliques dans les canalisations ou autres. Qu'ils ont un peu plus de facilité à tout bouger, à tout péter parce que le truc est rouillé jusqu'à l'os quoi. Ouais.
Tout ce que tu vois dans le film au début, tu te dis waouh, c'est abusé quoi. Puis en fait quand tu regardes l'histoire, tu fais ah non en fait quasiment tout ce que tu vois, ils l'ont fait quoi. Je dis ah ouais, OK. Bon, il y a que peut-être que quand il soude là j'ai peut-être du mal à croire qu'avec un peu d'étain, 4 allumettes, il arrive à souder un truc comme ça et que ça tienne. J'ai un peu de mal à y croire quoi, mais sinon tout le reste quand ils font la perceuse là au début, je me dis c'est une vanne, le mec qui fait une perceuse avec un putain, non, ils l'ont vraiment fait avec un moteur
d'aspirateur. Ouais, ils l'ont vraiment fait avec un moteur d'aspirateur, un truc de fou quoi. Toute cette partie là effectivement n'a pas été inventée quoi.
C'est, alors que tu te dis non ça va, ils abusent, c'est un film, et non en fait quand tu vois ce qu'ils ont fait, quand ils te montrent les photos des mannequins qu'ils ont fait ou des grilles qu'ils ont fait, tu dis non mais la blague quoi, putain c'est vraiment trop bien quoi.
Ils ont le papier mâché et tout, ils ont tout refait à l'identique, les grilles, une partie de mannequins,
de ventilation, les mannequins,
ils avaient chopé des cheveux vraiment
parce que
chez le coiffeur quoi.
Ouais, parce que l'un des frangins qui bossait au salon de coiffure de la tôle, qui ramenait les cheveux pour, enfin c'est fou quoi. Puis c'est surtout que c'est comme tu dis ouais c'est un film quoi, ça grossit les traits et tout, et en fait putain non, les mecs 95% de ce que tu vois dans le film ils l'ont fait quoi. Ouf quoi.
C'est plutôt bien rendu effectivement. Un des reproches qu'on peut faire à des films qui retracent des histoires vraies, c'est de romancer un petit peu, d'enjoliver un petit peu les choses.
Très peu hein. Très peu quoi.
Oui, parce que pareil, la partie où ils ont fabriqué des gilets de sauvetage avec des
impairs
de pluie et tout, avec des impairs, voilà, c'est idem, ils ont réussi à les chaparder, enfin voilà, il y avait pas d'invention là-dessus.
Non,
et quand on va visiter Alcatraz, il y a certaines cellules qu'ils ont gardées en l'état, ou en tout cas ils ont reconstitué
la cellule,
cette partie cellule où les prisonniers s'étaient évadés.
Bah pareil,
ils ont remis une tête en papier.
Ah, en papier mâché.
Et un morceau de mur éventré.
Ah, pas mal.
Pour signifier le passage. Ouais, tu vois, ils ont pas mis le truc sous le tapis et tout.
Tu peux plus un truc comme ça. Après, t'as le film, t'as tout ça. Pareil, apparemment, j'ai lu que, qui a été, je sais pas si c'était encore le cas, mais il y a encore l'avis de recherche, leur avis de recherche qui est alpagué sur la prison.
Oui, oui. Qui est placardé là-bas, tout à fait. Dans la
C'est trop fort, ça.
Alors, le film a été tourné là-bas, évidemment. Contrairement à The Rock, et ça, je peux dire, parce que j'avais regardé The Rock avant de partir aux États-Unis, en me disant, on va à Alcatraz, je vais me documenter, tu vois.
Je vais essayer de retrouver les endroits.
Exactement. Et tu sais que dans The Rock, il y en a un paquet qui ressemble absolument pas à la prison. Mais par contre, dans l'évadé d'Alcatraz, ils ont eu l'autorisation de tourner sur place, alors que la prison avait déjà été transformée en musée.
Mmh. Parce que maintenant, tu peux encore tourner sur Alcatraz ou c'est plus possible?
C'est une bonne question. C'était déjà un parc national à l'époque. Ouais. Ça dépend en fait des parcs nationaux là-bas.
Ouais.
C'était déjà le cas à l'époque. Alors pour The Rock, par exemple, je sais qu'ils ont eu le droit de tourner certaines scènes là-bas. Mais bon, comme ils avaient décidé d'un petit peu tout faire péter.
C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est le côté Michael Bay sur You là. Ouf, non. Hein
ouais, ouais. Donc ils ont eu certaines scènes où ça canarde pas, machin et tout, notamment celle qui se passe dans la grande cour là où Sean Connery arrive avant qu'il bute, quand les mecs menacent de buter l'otage. Bon voilà, ça a été tourné là-bas, il y a pas de souci. Par contre tout le reste, enfin je prends par exemple la scène de la morgue.
Ouais.
Dans The Rock, voilà. Elle n'a pas été tournée là-bas. Parce que la morgue de d'Alcatraz ne ressemble pas du tout à la.
Je pense que la scène sous les égouts d'Alcatraz, je pense que c'est pas là-bas non plus, tu vois.
Non, je ne suis même pas sûr que.
Qu'il y avait des égouts comme ça.
Je me suis pas documenté sur le film The Rock, mais effectivement. Pas tout à fait sûr qu'il y ait un réseau d'égouts parce que la prison a été reconstruite 5 ou 6 fois par-dessus, tu vois.
Oui, donc... Bon, bah, voilà, c'est Michael Bay, quoi.
C'est Michael Bay, quoi. Voilà. Par contre, ouais, pour l'évadé d'Alcatraz, ils ont eu l'autorisation de tourner là-bas, alors que, voilà, 63-79, la prison était désaffectée déjà, depuis 16 ans, et transformée en lieu de visite. Et au départ, en fait, ils ont tourné beaucoup de leurs scènes de jour. Et le problème, c'est que ils tournaient, certains endroits étaient fermés pour le tournage.
Ouais, bon,
mais il y avait quand même du public qui venait visiter la prison. Et il y a beaucoup de public qui venait parce qu'ils savaient qu'il y avait le tournage.
Donc, bah ça, oui, c'était un forcément.
Bordel. Il y avait Clint, si tu veux, à un moment, ça foutait un bordel pas possible.
Ah, puis Clint à l'époque, quoi.
Ouais. Le Clint, des années 70, ouais. C'est autre chose. Et donc, Don Siegel, à un moment, a dit, non, attends, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, c'est un bordel, on tient pas les délais et tout. Donc, il y a toute une partie du scénario où des scènes devaient se dérouler de jour, qui ont été changées pour que ça se déroule de nuit, et ils ont fait les tournages la nuit pour être peinards.
Ouais, pour être tranquille, quoi. Oui,
oui. Alors ensuite... Ça colle bien au scénar parce qu'effectivement, toute la partie préparation, creusage, visite des galeries, etc., se passe de nuit, évidemment. Mais il y en a certaines, effectivement, qui n'étaient absolument pas prévues, de nuit et qui ont été transformées dans le scénar à cause de ça. Bon, après... Parce que les parcs nationaux avaient dit non, vous avez l'autorisation de tourner, mais bon, les gars, par contre, show must go on, quoi, hein, la visite continue.
Démerdez-vous. Vous tournez, mais vous démerdez. Après, honnêtement, c'est pas problématique.
Enfin, je veux dire, dans le
ça
récit,
ça choquera pas du
passe,
tout.
Ouais. Passe très très bien. Il y a pas de problème particulier. Ils ont également, ils avaient rééquipé une partie des pièces.
Ouais, Paramount avait payé, avait réinvesti de l'argent
forcément puisque tout ce qui était de toute façon déjà douche réfectoire, etc., tout était parti. Tu m'étonnes, 15 ans plus tôt. Oui. Et puis toute la partie entre guillemets, tu sais, console de sécurité dans les pièces,
les postes de gardiennage, tout ça,
dans les postes un peu blindés et tout, idem, ça avait été refait à l'identique des dernières années pour donner
Et puis là, d'après ce qu'ils disaient, $500,000 ils ont investi, la Paramount, $500,000 pour l'époque, ça fait une petite somme quand même.
Ouais, c'est sur un budget de 8 millions, rénover les...
Ils ont mis un peu de pognon, hein. Je pense que pour le coup, ça les a bien arrangés, la direction d'Alcatraz, là, juste on dit, on va se faire rénover des cellules pépères pour les visites, après, ça sera tout bon.
Des chemins de ronde, des trucs comme ça, oui, effectivement, parce que quand tu visites Alcatraz aujourd'hui, t'as un paquet de bâtiments,
délabrés, quoi.
C'est à l'épreuve du temps, des tempêtes.
Puis si t'as plus personne qui les gère, entretient ça, plus rien, oui, forcément.
T'as plus ou peu d'entretien. En plus, tu vois, tout se visite ou presque sur place. T'as juste la partie audio guide qui n'est que dans la partie principale, à l'endroit des douches, du réfectoire et des cellules. Et puis après, tu peux faire le tour de l'île à pied pour voir les autres bâtiments, qui étaient un peu plus
de l'extérieur,
administratif.
Ouais. Okay.
Sachant que sur les deux pointes de l'île, effectivement, les bâtiments qui étaient présents sont les plus délabrés, les moins entretenus aujourd'hui. Que dire d'autre sur le film, mon ami ?
Que dire d'autre? Donc, on a parlé, donc 8 millions, 43 millions de budget. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, déjà que c'est un bon film, tout simplement.
Oui, ah oui, quand même. Oui.
Commençons par là.
Allez.
Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un bon film. Alors, après, moi, j'ai un petit fait pour les films de prison. Moi, j'aime bien les films de prison, tu vois.
Ah, les films de zonzon, il y a des choses pas bien, mais
je pense qu'honnêtement, il y a plus de pas bien que de bien. Mais moi, j'aime encore bien, tu vois. Bah, donc, l'évader la Catraz. Alors, The Rock, oui et non, c'est pas pour moi, c'est pas un film de prison vraiment à proprement parler. Mais
t'avais. C'est un film de prison, ouais.
Haute Sécurité, que j'aime bien, moi, avec Stallone, que je m'en cours bien. Moi, j'aime bien Prison, donc de René Harling. Je crois que c'est son premier, d'ailleurs. Premier aux États-Unis, je crois. Si je dis pas de bêtises, avec un tout jeune Viggo Morgenstern. Que ça, tu vois, là, pour le besoin de l'antre, j'ai rematé le troisième Réanimateur, donc il se passe tout pareil dans une prison.
D'accord.
Et puis, y a, pour les vieux comme nous, il y a les films de prison avec Brigitte Lahaie aussi. Hein. C'est pas le même genre de film de prison, mais bon.
Peut-être une reco en fin d'émission à ce moment-là.
À voir, peut-être.
À voir. Donc, et je me demande si à un moment j'étais en train de me taper la filmo de Steven Seagal, et je me demande s'il n'y a pas un de ses derniers films cinoche là,
qui ouais, est, où il est dans une tôle,
qui se passait pas dans une tôle.
Attends, dans les derniers cinémas qu'il a fait, oula,
ouais. C'est avec un moment avec un hélicoptère qui se plante là en plein milieu d'un puits dans la prison.
Oh, je sais même plus c'est quoi les derniers qu'il a fait, quoi.
On va pas se mentir.
Oui, c'est Steven Seagal, quoi. En plus, les derniers sortis au cinoche commencent à dater, hein.
Oui.
Parce que je dirais que le dernier sorti cinoche, ça doit être avant 2000, hein, je pense, hein, donc, à mon avis, je pense. Mais oui, c'est possible.
Je suis en train de regarder sa filmo, là, pour voir si.
Ouais. Fais-toi du bien. Fais-toi du bien. Ouais, là, j'en ai récupéré à du vide-grenier, là, du bon Seagal pourri, là, donc.
Voilà. Filmographie, déjà, il sépare acteur, producteur, scénariste et réalisateur.
Réalisateur, il y a, merde.
Terraminé?
Oui, Terraminé, merci. Son plus grand chef-d'œuvre.
Ah, je me demande si c'est pas, sous haute protection.
Oh, c'est possible. Je t'avouerais que Steven Seagal, les directs ou DVD, j'ai un peu fait l'impasse sur pas mal, quand même. Mais là, tu me dis que c'est sorti au cinéma, je suis étonné quand même. Bon, après.
Il me semble que c'était une des dernières. Dernières.
C'est fort possible après. Bon, après, on va pas. De toute façon, c'est Steven Seagal, on va pas trop ça, on va pas s'attarder dessus non plus. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi.
Non, pas du tout, même. Ah, bah, tu vois, peut-être qu'un de ses derniers ciné, c'était peut-être Machete. Hein.
Ah, ouais. Après, c'est plus. Il a un second rôle dedans que. Enfin, quoique, il est devenu plus second rôle dans tous ses films d'après que ce qu'il était avant. Enfin, bon.
Une meilleure version de lui-même.
Oui, voilà. Donc, après, au niveau du film, de quoi on peut parler? On peut parler de la post-prod, si tu veux.
Vas-y.
En parler après. Bah, que, bah, déjà, la fin a été changée.
On n'a pas de fil conducteur, hein, donc on peut prendre le fil qu'on veut.
Ok, ça marche. Déjà, c'est Clint lui-même qui a monté le film. Donc c'est pas Don Siegel parce que donc qui a quitté le navire à la fin pour des soi-disant il avait pas le temps parce qu'il était en retard sur la réalisation de son prochain film. Donc ouais. C'est Eastwood
alors qu'il montait souvent ses films.
Oui, c'est ça qui est très étonnant parce que il était toujours au montage de ses films. Et là non. Bon alors en vrai le pourquoi on sait pas trop. Lui il a justifié que c'est parce qu'il était en retard. Donc sur la réalisation de son prochain film. Donc c'est Eastwood qui a monté le film. Qu'est-ce qu'a fait Eastwood? Il a changé la fin aussi.
Ce qu'on peut appeler communément des divergences artistiques.
Je pense. Ça doit être un truc
entre le réal et le studio, ça peut être ça. Hein.
Oui, sachant qu'ils se sont déjà un petit peu tirés dans les pattes au moment du choix des acteurs, parce que c'était un peu le bordel, parce que lui, il voulait Eastwood, Eastwood, il était d'accord, mais il fallait que ça soit produit par... alors, je sais pas si c'est sa maison de prod non, je crois pas, hein, ça doit pas être sa maison de prod, mais à mon avis, il devait avoir des bits dedans, quand même, de Eastwood, là. Donc, il voulait que ça soit produit par Malpasso, Don Siegel, il voulait pas, il voulait que ça soit un film Jim Siegel. Alors après, ils se sont fait des coups de putain en rachetant, je crois que c'est Siegel qui a racheté les droits devant au nez de Clint Eastwood pour pouvoir récupérer le bordel. Donc après, ça a foutu le dawa. Puis au final, bon, ils se sont arrangés comme ils pouvaient avec des négociations apparemment qui étaient un peu compliquées, quoi.
Eh, mais des histoires dont seul Hollywood...
Oui, voilà. Donc, en gros, il y en a un qui le voulait. Ouais, parce que Siegel voulait que ce soit sous sa boîte de prod à lui. Eastwood voulait que ça soit sous Malpasso. Ils se sont foutus sur la gueule. Ils se sont fait des coups de pute avec du rachat de droits dans le dos. Et puis, à la fin, apparemment, c'est Eisner qui a coupé un peu le bordel en disant, bon, les gars, on va vous détendre. On va faire que le film, ça sera une coproduction Malpasso-Siegel. Comme ça, tout le monde est d'accord. Bon, apparemment, ça a à peu près calmé tout le monde. Mais je pense qu'effectivement, quand tu vois un peu ça, tu te doutes que le montage, oui, je pense qu'il y a peut-être eu encore un petit peu d'anguille sur Roche. Je pense qu'ils devaient être encore un peu fâchés ou ils devaient pas être d'accord. Et puis l'autre a dit, oh, non, c'est bon, tu me casses les couilles, je lasse le montage. Et puis donc, c'est Eastwood qui monte le film, au final. Donc bon, oh, après... le montage est propre, moi pour le coup ça me dérange pas.
Oui, ça va, hein. C'est comment, il y a pas de génie
non.
Enfin dans la réalité globalement et dans le montage
c'est classique, voilà. Quoi. Est-ce qu'il y a quelques trucs qui ressortent un peu de l'ordinaire? Non, c'est un montage relativement classique mais efficace. T'es toujours dedans c'est un film de prison, quoi, ça veut pas forcément rien dire. T'es jamais perdu géographiquement dedans, tu comprends très vite comment fonctionne la prison, tu dis, ah ouais, les cellules sont là, tu passes la porte là, tu vas au réfectoire, là il y a ça. Bon, c'est comme dit, c'est classique, mais ça fait largement le café et le film, tu t'emmerdes pas. Donc ça, il y a pas de souci. Donc il a monté, qu'est-ce qu'on a eu la fin a été changée aussi parce qu'au départ la fin du film devait pas être ce qu'on a dans le film. En fait, tu devais t'arrêter sur la découverte des mannequins par le gardien. Et le film devait couper là. Et donc, c'est Eastwood qui, lui, il était pas... Enfin, ça y plaisait pas parce qu'il trouvait que c'était trop... trop pessimiste comme fin, qu'il n'y avait pas une once d'espoir. Est-ce que ces mecs en étaient sortis ou pas? Donc, ce qui fait qu'on est arrivé sur la fin qu'on a... voilà.
Sur celle où le directeur
Warden il trouve une chrysanthème, parce que c'est la chrysanthème revient souvent dans le film par rapport à un gars. Donc
il se rend sur la plage où ils ont retrouvé le radeau et il retrouve le chrysanthème et donc ça peut laisser supposer qu'il
s'en serait
arrivé sur la plage vivant. Mais effectivement, de toute façon, on en parlait tout à l'heure, que tu fasses une fin ou l'autre, tu fais un parti pris quoi qu'il arrive, parce que ils n'ont jamais retrouvé les trois mecs ni vivants ni morts.
C'est ça.
Voilà, ils n'ont pas trouvé les cadavres et les mecs n'ont jamais été arrêtés.
Il y a eu une histoire de lettres, je crois, d'un des fers Anglin. Oui. qui a popé dans les, je sais plus, 2010 ou un truc comme ça, ou 2008, je sais plus.
C'est ça.
Ouais. Comme quoi, il s'en était sorti, qu'ils étaient partis.
Ouais, il dit qu'il a 80 balais, qu'il est malade, qu'il va bien.
Voilà, qu'il a atteint un cancer en phase terminale et que justement, il veut,
faire sa confession.
Voilà, faire sa confession. Donc, il dit que les deux autres sont morts, hein. Il dit que Maurice et puis son autre frangin est mort. Donc voilà, et que, voilà, qu'ils ont vécu une belle vie, je crois. Il dit que, c'est quoi qu'il disait sur la lettre, que s'ils acceptaient de le gracier, ils se livraient, ou ils disaient où il était, je crois, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. S'ils acceptaient de pas le remettre en prison, il donnerait sa localisation.
Sa localisation, voilà. Bon, il s'est avéré qu'après, donc, le FBI l'a rendu public parce que ça a été, je crois que c'est ça, ça devait être 2008 et ça a été rendu public en 2013 ou un truc comme ça.
Et
en fait, donc, le FBI aurait débunké comme quoi, non, c'était pas lui, qu'ils avaient fait des analyses ADN et puis qu'apparemment, je crois, ou un truc, mais je me suis dit, mais vous l'avez trouvé où l'ADN du mec déjà pour faire son analyse ADN? Enfin, je sais pas, mais bon.
Non mais encore, tu vois, sur le timbre ou sur la lettre, peut-être celle de 1963.
Je veux dire, comme excuse, c'est un petit. Alors bon, est-ce que ça sent peut-être le canular? À mon avis, il y a des chances. À moins que, pour le coup, ce soit vraiment le mec qui était justement à l'article de la mort. On ne sait pas. Et donc, en 2013, ils ont rendu public en débunkant que non, c'était à 99% une connerie. Quoi.
Ils ont effectivement attendu, je crois, le délai pour que le dernier des évadés passe les 100 ans.
Ouais, c'est ça. En fait, pour considérer qu'il était mort. Quoi.
Pour considérer qu'il était effectivement décédé.
Décédé, ouais. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, donc tout ce qu'ils ont fait, ce qu'on voit dans le film, donc a été fait pour de vrai. Donc ça, moi, je trouve ça hallucinant. Honnêtement, ça m'a fait délirer. Surtout, ouais, même là, quand ils font la perceuse, je me suis dit, ouais, ça va, putain, c'est une vanne, quoi. Putain, non, les mecs ont vraiment fait une perceuse avec un moteur d'aspi. Déjà, moi, ce qui me fait... Alors, c'est là que tu te dis quand même que je pense que la surveillance... Enfin, pour dire que c'était une, on va dire, une espèce de prison de haute sécurité, quand même, hein, j'ai l'impression que la surveillance avait l'air cool quand même à Alcatraz, que les mecs, putain, tout ce qui passe, quoi.
À partir du moment où ils arrivent sur le toit, ouais, c'est quasiment la liberté, quoi.
Ouais, et puis même tout ce qui sort, je veux dire, les impairs qui braquent et tout, je veux dire, il y a rien qui est compté dans le truc.
Ouais.
Enfin, c'est fou, quoi. Tu dis, sortez des trucs. Pareil, l'accordéon, quoi. Moi, quand il lui file l'accordéon, je dis, ah, c'est une vanne, jamais ils vont filer un accordéon à un mec pour qu'il joue. Putain, les mecs, si,
ça a été ouais, pareil, c'était
et
vrai.
Ouais,
il a fait semblant d'apprendre l'accordéon pour pouvoir cacher le trou.
Les bruits, cacher les bruits quand il creusait, machin.
Ouais.
Et donc, tout ça accordé par le directeur pour bonne conduite, quoi. C'est le mec qui était un très bon prisonnier modèle. Bah ouais, mec, tu pourras avoir un accordéon et jouer de l'accordéon. Enfin, je trouvais que c'était ouf. Donc après, voilà, l'histoire, elle paraît tellement fou et de se dire que bah non, tout ce qu'ils ont fait, bah ouais, c'est ce qui s'est passé, quoi. Il suffit d'aller, moi, ce qui me fait délirer, c'est quand tu vois le film, tu dis, ouais, les mecs, quand même, c'est gros, faire des fausses grilles avec du papier mâché ou des trucs comme ça. Et quand tu vas voir les vraies photos de ce que eux ont fait, tu dis, mais c'est fou, les mecs, en prison, avec ce qu'ils avaient sous la main, ils ont réussi à faire tout ça,
ouais,
c'est impressionnant.
C'est ça, avec MacGyver, quoi, avec...
Les mecs auraient largement pu bosser dans les effets spéciaux de pas mal de films, hein, sans problème, hein, en vrai.
Ah oui, oui.
Quand tu vois ce qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient... C'est vraiment
prends 100% ça, des
ah oui, non, mais c'est vraiment, tu dis les mecs, fort quand même. Après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et les archives du FBI, j'avais lu quand même, ils disaient 1757 pages pour le dossier quand même. Tu dis, c'est ouf quand même, sur l'enquête complète.
D'enquête d'évasion.
Tu dis, non, mais un truc de fou, quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ah ben, on discutait avant, pour ceux qui connaissent, il y avait une émission donc qui s'appelait Mythbusters, qui ont recréé l'évasion. Donc c'est avec Jimmy Heineman et puis Adam Savage. Donc Adam Savage, c'est un mec qui bosse dans le cinéma, qui a fait des effets spéciaux, enfin qui fait plein de trucs, quoi, fabricant d'effets spéciaux, concepteur, tout ça. Et t'as Jimmy Heineman, lui c'est un expert en effets spéciaux aussi, et puis il fait plein de trucs mécaniques et tout. Et donc leur émission, c'était de débunker des mythes. Donc au départ, donc par exemple le mythe de la fameuse pièce de l'Empire State Building, si tu la jettes, est-ce que quand elle arrive en bas, elle tue un mec, voilà. Et eux, donc ils ont tenté l'évasion comme eux ils ont fait. Donc en faisant eux-mêmes leur radeau avec les mêmes impairs, enfin en tout cas tout ce qui pouvait être le plus proche de ce que c'était à l'époque en 63. Et donc ils ont réussi. Ils ont réussi à s'évader. Enfin donc à s'évader, oui. Et ils ont réussi la traversée. Le seul truc, c'est qu'ils atterrissent pas ou dans le film ils sont
sur la même île. Ouais,
voilà, que... sur la même île. Donc eux ont dit qu'effectivement l'évasion, elle était plausible. Donc ils auraient pu s'en sortir malgré les courants, malgré la marée, tout ça. Ils auraient pu s'en sortir. Donc peut-être que ces gens, ils s'en sont sortis, ils ont une super vie et on le saura jamais, quoi. Et ça, c'est fou. Et
qu'il n'y ait pas de résolution à ça. Alors c'est pour ça que notamment aux États-Unis, le département d'État le DOJ, de justice dit toujours que personne ne s'est évadé d'Alcatraz.
Enfin, bah oui.
Quand on demande
on a pas de
si personne ne s'est évadé d'Alcatraz, en fait eux répondent personne n'en est sorti vivant, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Ah, mais puis de toute façon c'était
pour garder un tant soit peu la face,
où tu te dis que ça va engranger, enfin donner encore plus sur le mythe. C'est que dans le film, il t'explique que, ouais, de toute façon, les noyés, les corps sont systématiquement rejetés, sur les côtes. Normalement, on les retrouve. Et là, ils ont jamais retrouvé un corps, quoi. C'est ça qui est ouf, quoi.
Alors, ils en ont retrouvé un, je crois, un mois et demi après l'évasion.
Ouais, mais impossible à identifier, de toute façon.
Un chalutier, ouais, qu'on a ramené un mois et demi après. Mais effectivement, impossible de...
Ah, un mois et demi dans l'eau.
Impossible d'identifier, ouais, impossible d'identifier le corps. Et puis, alors, à l'époque, voilà, les...
Oui, et pas les tests ADN, tout ça.
Les tests ADN, tout ça, voilà, ça n'existait pas.
C'était pas fou.
Effectivement. Ce qui, moi, me fait douter, effectivement, un peu de ce que tu disais tout à l'heure sur le FBI.
Oui, non, mais ça me fait rire quand tu dis ça. Tu dis, ah oui, d'accord, on en est là, quoi. Ouais, c'est même 2018 qu'ils ont rendu la lettre publique. C'est même pas 2013, c'est 2018. Et c'est en 2013 qu'ils ont reçu la lettre, voilà, en fait, c'est ça. C'est pas 2008-2013, c'est 2013-2018. Et oui, ils disaient qu'une enquête a été rouverte. Des analyses ADN ont été faites, mais elles n'ont pas été concluantes. Puis je dis, bah putain, les analyses ADN de quoi? Ah bon. Après, enfin, de quoi? Si, tu les as là, mais il oui. faudrait peut-être avoir l'ADN au départ du mec, quoi. C'est surtout ça qui me fait rire.
Tu pars sur un postulat de départ qui est un peu tendax quand même.
Oui, donc après, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Donc bah comme t'as dit, la prison donc a été fermée
l'année suivante.
Moins d'un an après, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Donc après, effectivement, on sait pas si c'est l'évasion là qui a entraîné la fermeture ou si c'est tombé, c'est bien tombé, on va dire que les mecs sont évadés et puis que derrière peut-être c'était prévu d'être fermé, ça on le sait pas, on sait pas trop. Moi, pareil, ça joue encore pour le mythe ce truc-là du fait que les mecs se soient évadés et que la prison ferme derrière. Après, comme on disait, ce qui est sûr, c'est que bon, il y a des têtes qui sont tombées, hein, le directeur.
Ah, au moment où c'est arrivé.
En plus, d'après dans la vraie histoire. Il était même pas là, je crois qu'il était en vacances ils sont évadés pendant que c'était le directeur intérimaire.
Oui, parce que dans la façon dont on peut romancer un petit peu une histoire pour lui donner un petit peu de dramaturgie. Bon, quand le directeur dit Maurice, demain, juste au moment où il s'apprêtait à se barrer. Bon, effectivement, ça ne s'est très probablement pas passé comme ça. Oui, il cause beaucoup. Ah bah vous allez le changer de cellule alors. Bah oui. Ouais.
Ouais, il y a peu de chance. Oui, c'est vrai que t'as ce machin. Oui, alors vous avez remarqué des trucs. Oui, il cause beaucoup avec demain soir. Non, ce soir. Enfin, ou demain matin. Ouais. Et le mec qui se casse le soir. Comme t'as dit tout à l'heure, effectivement, donc ils étaient quatre.
Oui, dans le film,
il y en a que trois qui se sont évadés. Alors pareil dans le film, t'as l'impression que le quatrième, donc c'est Charlie. Donc dans le film, on te laisse sous-entendre qu'il s'évade, enfin qu'il est au départ qu'il part pas avec eux parce qu'il a peur en fait. Enfin moi dans le film je le conçois comme ça, que le mec a peur de franchir le pas de s'évader et puis au final.
Ouais, c'est vraiment ce qui laisse transpirer.
Dans le film en tout cas moi je le sens comme ça. Ouais. Alors que dans la vraie histoire apparemment c'est pas ce qui s'est passé. Alors il aurait été retenu par quelque chose. Alors ça pareil ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire retenu par quelque chose. Donc lui il dit qu'il aurait pas eu peur et qu'en fait il aurait pas pu partir tout de suite. Alors est-ce qu'il y avait les gardiens ou je sais pas, et que quand il les a rejoints, ou là ça retombe sur le film, ou quand lui il va les rejoindre, eux ils sont déjà partis. Donc il se retrouve coincé à un endroit où il y a une grille où tu peux pas monter, tu peux pas accéder à la grille si t'es tout seul. Voilà, il faut être au moins deux.
Tout seul,
et donc quand il arrive à ce moment-là, bah les autres l'ont attendu un peu, mais comme il venait pas, ils sont partis, il se retrouve coincé là et il retourne dans sa cellule.
Ouais. Voilà, ce que j'avais lu, c'est qu'a priori, il avait pris du retard sur son creusage de trous, il arrivait pas. Voilà.
Ouais.
Et donc il a dû attendre quand les autres se sont barrés à l'extinction des feux, il a essayé de creuser le plus possible, mais il est qu'à 2h du matin alors que les autres étaient déjà partis depuis belle lurée.
Ouais, je crois qu'ils sont partis vachement tôt en plus, hein, je crois. J'avais lu, c'est 21h, ouais, ou je sais plus, ouais.
Un truc genre avant minuit, ouais, a priori, ils auraient pris la mer.
J'en revenais pas, c'était.
Je sais plus, 22h.
C'était hyper tôt. En plus, c'est en juin, quoi.
Ouais.
Je veux dire, donc normalement, en juin, tes jours, tes jours sont plus grands. Tu vois, tu te dis encore en plein hiver.
Les jours sont quand même longs.
Ils sont partis quand même hyper tôt, ça m'a vachement étonné. Alors que dans le film, t'as pas vraiment de notion d'heure. Il fait déjà nuit quand ils sortent, donc Parce que tu te dis, putain, ils éteignaient les lumières. Bon, après, t'es en prison, tu viens, t'es pas en vacances. Mais, ils éteignaient les lumières vachement tôt, quand même. Après, oui, donc, comme on avait dit, ils ont changé le nom. Bah, ça, oui, comme on a dit, je pense que c'est une histoire de droit. Je pense que peut-être le gars a pas voulu. Bon.
Ouais, moi, c'est ce que. Alors, j'ai pas trouvé le. J'avais pas trouvé l'info, l'info exacte là-dessus.
Ce qui est rigolo, c'est qu'apparemment, lui, de Lascousse, n'a jamais été inculpé pour avoir tenté de s'évader.
Non.
Alors qu'il avait quand même creusé le trou et tout. Alors après, ils disent que. Enfin, d'après ce que tu lis, c'est qu'il aurait plus ou moins. Allez, un petit peu balancer les copains, on est, enfin, un peu négocier la témoin, enfin, la clémence contre des petites infos.
Mais il a voulu aussi tirer un peu la couverture à lui en disant que c'était quand même lui le cerveau du.
Oui, c'était lui le cerveau. Bon, en même temps, c'est facile.
les autres sont plus là pour démentir.
Oui, tu m'étonnes. Non, c'est moi qui avais tout pensé. Bon, oui. J'ai foiré, j'ai pas creusé assez gros pour pouvoir sortir, mais c'était moi le cerveau.
J'étais un peu con là-dessus, mais. Peut-être qu'il me revient, puisque, comment, on les voit partir. Alors, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils aient pas fait un plus grand effort que ça dans le film, mais l'espèce de bateau radeau gonflable qu'ils ont fabriqué, en fait.
C'est une espèce de bouée, et, en fait. C'est une espèce de grosse bouée.
Celle qui a été fabriquée en vraie évasion était beaucoup plus grande. Elle faisait.
Oui, j'avais elle lu. Faisait quasi, 4 mètres et quelques, ou je sais plus quoi, j'ai halluciné. Ouais.
4 mètres 50 sur 2 mètres, quasiment, tu vois, presque en forme.
Ouais, les mecs ont fait un vrai bateau.
En forme de triangle. Ben oui, et pour une bonne raison. Là, dans le film, tu les vois partir à la nage, et je pense qu'ils auraient jamais pu nager dans une eau aussi froide, en fait.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient.
C'est ce qu'ils disent au départ, c'est que de toute façon, déjà, la côte est. Voilà.
Même en été, elle est à 10 degrés.
La côte est super loin.
Ouais.
Et... Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, 8 degrés ou 10 degrés, je sais plus combien. Tu fais, 8 ou 10, ça pique, quand même. Surtout quand tu commences à être longtemps dedans.
Bah non, mais si t'es en jean et en truc, c'est juste pas possible. Et donc, ils avaient construit un radeau beaucoup plus grand pour tenir dessus, justement, et pagayer à la main, quoi. Et être le moins en contact.
Ouais, c'est ça.
Être le moins en contact possible avec la flotte.
Bah, c'est ce qu'il faut. Parce que le radeau que tu vois dans le film, pour donner un ordre d'idée, enfin pour dire aux gens à quoi ça ressemble, s'ils n'ont pas vu le film, ça pourrait faire penser au truc Brody et Hooper, ils ont à la fin des Dents de la Mer, quand ils se barrent, tu sais, ils ont une planche avec deux espèces de tonneaux où ils se mettent dessus pour nager, ça ressemble un peu à ça, une espèce de gros boudin où tu te mets dessus et puis tu pousses avec tes jambes, tu nages avec tes jambes quand tu bats avec tes jambes.
En termes de taille, on n'est pas plus gros que ça, effectivement.
Et les mecs
partent à la nage tranquillou bilou, quoi, alors qu'ils ont facile 3-4 kilomètres de nage à faire.
De ça, sans compter, comme ils disent, avec le courant de gogol qu'il y a, c'est pas gagné, hein.
Ce à quoi Maurice avait pensé, effectivement, en disant ils vont nous chercher à tel endroit et nous on ira ailleurs. Ouais. La direction de la prison d'Alcatraz, luxe à l'époque sur des prisons aussi dures. Douchait ses prisonniers à l'eau chaude.
C'est vrai que c'est du luxe, hein.
Pour pas les habituer à l'eau froide.
C'est pas con.
Eh ouais.
C'est vraiment pas con.
Et c'était totalement explicité. Enfin voilà. De toute façon, oui, on va vous faire prendre des douches à l'eau chaude. Comme ça, vous habituerez pas en fait à l'eau fraîche et donc ça vous passera l'envie d'aller piquer une tête dans la baie de San Francisco.
Ah, le petit monologue discours du directeur,
au début,
quand justement Maurice, tu le fais venir dans son bureau, qui explique, tu vois, si vous comptez vous évader, donc personne n'a jamais réussi machin, la côte est à temps, l'eau est à temps, avec le courant il vous faudra temps, machin et tout, donc. Tu dis, ok, on plante quand même déjà le décor. Et tu dis, et ils ont quand même réussi. Enfin, à s'évader. Après, pour le coup, ils se sont évadés, mais bon.
Oui, voilà. Sont-ils arrivés au bout?
Ben oui, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai revoyé ça. C'est vrai que le bateau, tu dis, quand tu vois ce que tu vois dans le film et ce qu'ils ont fait, tu dis, mais c'est fou, quoi. 1m80 de large pour 4m25 de long, quoi. Mais ça passe pas inaperçu, quand même, comme truc.
Faut les sortir, les imperméables, pour fabriquer.
Mais c'est ça, c'est pas, là, il t'en faut pas deux, quand même. Hein. Ça, ah oui, pour gonfler le ballon, c'est quoi? Ah oui, pour gonfler le ballon, ils utilisaient la pompe à air de l'accordéon. Pour gonfler le bateau, c'est trop fort, quoi. Enfin, mais moi, j'adore ces trucs de Joe la débrouille comme ça me fait toujours, Je me dis, putain, les mecs, c'est quand même fort, c'est des génies, quoi, les gars.
Et ils ont mis 2 ans pour mettre au poste.
Encore 2 ans pour.
Et encore peut-être.
En planifiant, en creusant, machin, et tout. Putain, c'est fou, quoi.
Et même. Encore peut-être un peu moins, parce que, alors, dans le film, on n'a pas, pareil, on n'a pas d'indication de date, mais le projet germe vraiment quand Maurice retrouve les frères Anglin qu'il avait connu dans une autre zone, qui sont là aussi parce
qu'ils sont évadés.
Ouais. Exactement. Comment le projet germe à ce moment-là dans l'esprit de tout le monde. Alors, Maurice y avait peut-être déjà pensé avant, mais le fait d'avoir des compagnons d'armes là-dessus, il sait qu'il va pouvoir
Ouais, et puis des gars qu'ils connaissent l'évasion,
oui,
pour le coup.
Donc,
des gars sur qui il peut compter, ils savent que le boulot serait parti bien, d'ailleurs, quand ils se répartissent le taf, voilà, tu sens que les mecs, ils se font confiance et qu'ils vont bosser vraiment les uns pour les autres, quoi. Celui que tu te dis, ou, de toute façon, même dans le film, alors après, bon, dans la vraie histoire, c'est plus, on sait pas, enfin, moi, je sais pas trop, mais c'est, Charlie, justement, tu te doutes que lui, ça va être plus compliqué. Tu le sens dès le départ que lui, tu te dis il va pas y arriver. Bon, au final, il y arrive pas pour le coup, mais tu le sens qu'il va pas y arriver. Il paraît plus hésitant, il paraît plus moins sûr de lui sur beaucoup de choses. Tu sens que le mec, il s'en sort. Alors, je pense que le film le rend peut-être plus comme ça aussi. Après, quand tu lis un peu, tu te rends compte que bon, il s'est pas évadé, qu'il a peut-être pas creusé assez ou des trucs comme ça. Donc peut-être que c'était assez proche de la réalité, mais lui, tu le sens dès le départ que quand il décide de se mettre avec eux. Enfin, quand il se met avec eux, ah, tu sens que lui, ça va pas marcher terrible, quoi.
Il a la volonté de s'évader, parce que il veut
pour la mort de sa mère.
Ouais,
je crois,
voilà, il sait que sa mère, c'est ça, je crois. Voilà, en tout cas, dans le film, voilà, on lui apprend que sa mère va mourir et que bah il a peut-être aucune chance de la revoir. Donc effectivement.
Ouais, c'est...
Donc effectivement, c'est ce qui le motive à ce moment-là.
Mais au final, enfin, dans le film en tout cas, bah, il craquera, il décidera de pas y aller, et quand il va décider d'y aller, ça sera trop tard. Après, du bon film, hein, du bon Eastwood, quoi, du bon Eastwood fin 70, début 80, là, une période que j'aime bien, moi, ouais. Eastwood, quoi.
Un film de Don Siegel qui se passe encore à San Francisco, même si on voit pas grand chose de la ville, à part la skyline.
Ah, on la voit en arrière-plan.
La skyline, voilà,
on la voit en arrière-plan.
Et le Golden Gate au soleil couchant.
C'est ça. Moi, ça fait joli.
Mais
c'est une belle vue.
Ça fait des belles photos. On va pas se mentir.
Oui, donc du bon Eastwood. Comme on aime bien, enfin moi comme j'aime bien en tout cas.
Ouais, comme on a dit tout à l'heure, il y a pas de génie dans la réal, mais c'est propre, c'est efficace. T'es emmené dans le film du début à la fin.
T'as envie de voir comment ça avance et tu les aimes bien en plus. Ouais, moi je les aime bien les.
Oui, tu te prends de sympathie pour
en
eux.
Plus. Voilà. En plus, ils te les vendent pas comme des gros bâtards. Ouais. Je veux dire, c'est pas des tueurs, c'est pas des assassins. Bon, apparemment, c'est des braqueurs. Ils sont intelligents et c'est des braqueurs. Oui. C'est jamais sous-entendu, en tout cas, qu'ils ont tué quelqu'un.
Oui, effectivement. Ouais.
Donc bon, tu dis c'est des voleurs, c'est des voleurs sympas, quoi. T'as envie de te mettre avec eux, t'as envie qu'ils réussissent. Eastwood, c'est Eastwood, donc le mec, il pue le charisme à 900 km. C'est un gentil aussi. Dès le départ, il se fait emmerder par un mec dans la prison. Il le démonte.
Effectivement, ce personnage là, Wolf, en fait, c'est pas hyper utile dans le récit.
Non.
Sauf si Maurice a vraiment eu maille à partir avec un mec comme ça là-bas,
mais ça n'apporte pas. Ça n'apporte rien au récit, en fait.
Non, parce que ça
n'interfère en rien sur le.
Il se débarrasse de lui à chaque fois, en fait. Et le mec, comme il est, comme une bite, il y revient à chaque fois. Il prend deux peignées, il se dit, je vais quand même continuer, hein, parce que.
Oui, et puis après, il se fait, après, tu, il jarque du film pendant, un bon moment, parce qu'il, il fait 6 mois de
trou,
pendant 6 mois. Après, il revient, où il veut le rebuter, et puis là, c'est, je sais plus comment il s'appelle.
Le Black? English?
Le Black, ouais. Oui, English. Ouais. C'est English qui lui sauve la mise, entre guillemets, quoi. D'ailleurs, lui, tu t'attends, à un moment, je m'attendais à ce qu'il fasse partie de l'évasion, tu vois, dans le film à un moment. Puis en fait, non. Je m'attendais.
Clint lui dit à un moment qu'il aime pas les noirs, donc il comprend qu'il y a aucune chance qu'il l'emmène avec lui.
ce qui est rigolo, c'est tu sais pas si
oui, moi je sais pas si c'est du lard ou du cochon.
Oui,
parce que le mec lui donne le choix entre deux options. Tu t'assis pas. Soit t'assis c'est pas parce que moi, c'est parce que t'as peur ou parce que t'aimes
parce
pas.
Que t'as peur.
T'as peur ou t'aimes pas les noirs.
Ou parce que t'aimes pas les noirs. Et le mec, il fait j'aime pas les noirs.
Et le mec, il vient s'asseoir et dit j'aime pas les noirs.
C'est ça. Donc tu dis, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon, tu sais pas si c'est un peu le jeu des plus grosses couilles, de qui c'est qui a les plus grosses couilles. Donc bon, après, après il a l'air de se prendre quand même, ils se prennent un peu de sympathie les deux, ils ont, tu vois, ils se font pas de, ils se font pas de coups de pute.
Parce que c'est la scène de,
ils se respectent,
ouais, c'est la scène de la librairie, oui, de la ouais. bibliothèque au départ qui scelle ouais. un petit peu le respect qu'ils vont avoir l'un pour l'autre, effectivement. Et que quand English comprend qu'il est sur son coup d'évasion, il doit se dire, ok, il a quand même vachement bien joué, il est fortiche le gars. Et bon, il m'a pas proposé et j'ai aucune raison moi d'essayer de m'imposer dans son projet, dans son planning quoi. D'où cette espèce ouais de respect qu'il y a entre le qui
ouais, il y a un respect mutuel. Tu vois parce que après il lui sauve la mise
et il lui sauve la mise dans la cour quand l'autre veut le planter la veille de son départ
de l'évasion
parce que il sait qu'il doit se barrer dans la nuit et donc il dit si il se fait planter il part à l'infirmerie et donc il pourra pas s'évader comme il a prévu de le faire.
C'est ça. Et puis je pense que t'as un respect et puis tu dois avoir, si tu te mets à la place d'English, je pense qu'il doit avoir pas la fierté, mais il doit être heureux de se dire, putain, il va bien faire chier le putain de oui. Diablo, quoi. Il va bien le mettre dans la merde s'il arrive à s'en sortir, quoi. S'il arrive à s'évader. Rien que ça, je pense que lui, ça lui fait super plaisir. Parce que bon, il comprend très vite qu'il sortira jamais, il sortira jamais d'auto,
oui.
là, il le dit, hein.
Oui, lui,
il
le dit.
Pourquoi
oui.
t'as pas plaidé la légitime défense? Ben, parce que je suis black.
Ils étaient blancs.
Ouais, ça se tient.
Ben, parce que les deux mecs étaient blancs.
Ça se tient, quoi.
Ben oui, on est dans les États-Unis des années 60, donc voilà, c'est tout à fait, c'est la justice.
Alors que, effectivement, le mec, d'après ce que le mec te raconte, lui, pour le coup, il n'était pas fautif au départ, quoi, il s'est défendu,
voilà,
voilà, deux blancs, un black.
Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de films de zonzon, Franck Darabont, quand il fait Les Évadés.
J'allais dire, on a oublié Les Évadés.
Ouais. alors, je crois que c'est tiré d'un bouquin, quand même, Les Évadés.
King. Ouais. C'est un Stephen King.
Ah, c'est un Stephen King, voilà. Mais j'allais dire, Franck Darabont, quand il crée le lien entre Tim Robbins et
Morgan Freeman,
il a vu L'Évadé d'Alcatraz.
Oui.
Et
il
dit, c'est à ça que, en fait, c'est comme ça que la relation entre les deux, elle doit commencer. Et en fait, ils doivent, avant de devenir amis, ils doivent se respecter, quoi. Et c'est exactement dans... Enfin, tu ne peux que faire le parallèle.
Un peu la loi de la prison,
ouais,
quoi.
Tu ne peux que faire le
parallèle. Ouais, c'est un peu la loi de la prison, quoi.
Même si dans Les Évadés, tu as pas trop cette partie clanique...
Non, t'as blanc...
Blanc, ouais. Noir, hispanique...
les nazis,
les Aryens qui sont quand même un petit peu là. Mais autrement...
Toujours des nazis dans les prisons. Quoique là, il y en a
là,
on les voit
là,
pas
on
trop
les voit
nazis
pas,
dans celui-là.
Le Aryan Brotherhood, ouais. là, on les voit ouais. pas, ouais, effectivement. Pourtant, je pense que Alcatraz...
Enfin, 70, ouais, ouais, dans une vue.
Ouais, devait y en avoir quelques-uns, quand même. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Je pense que la cour, à mon avis, tu devais avoir un tiers hispanique, un tiers aryen, un tiers black, et voilà, à mon avis, ça a été un truc comme ça.
Oui, mais de toute façon, tu le vois bien, parce que quand il veut aller parler à English la première fois dans la cour, il monte les escaliers.
Ah oui, t'as
escaliers,
tous les mecs qui font...
Puis les mecs lui barrent le passage, tu lui dis « Oh,
qu'est-ce que tu fais ?»
C'est notre territoire, ici.
Tu vas où, toi ?
Donc voilà, et ça, on est effectivement sur une scène classique d'un film de zonzon.
T'as toujours le mec qui veut tuer l'autre, le clan des nazis, le clan des machins, qui va s'allier généralement avec un autre gars. Après, on n'a pas parlé du... Alors, je sais plus son nom dans le film, le peintre.
Doc.
Doc. Ah, c'est Doc, voilà.
Qui se coupe les doigts.
Et donc ça, apparemment, c'est tiré d'un truc vrai, mais alors je crois que c'était pas dans la prison là, par contre. Je crois que c'est un truc qui a été rajouté, si je dis pas de bêtises.
Une histoire de zonzon, mais prise ailleurs, peut-être.
Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça. et où le mec s'est réellement coupé les doigts, pareil, pour protester. Alors, c'était, je crois pas que c'est une histoire de peinture, là. Mais c'était pour protester d'un truc, de comment ils s'étaient traités, ou je sais pas quoi, dans la tôle, où le mec, ouais, au travail, là, dans le, bah ouais, le mec s'est sectionné les doigts, là. Je dis, putain, la vache. Donc là, et là, on te le met dans le film, parce que donc le mec peint bien, d'ailleurs, pour le coup, dans le film. Et puis, bah, en fait, il fait un portrait du directeur Warden, et puis, bah, lui le prend. Alors, c'est rigolo parce que, il le prend mal, mais en même temps, il est hyper fier que l'autre ait fait son portrait. Tu le sens, il est
flatté, ouais. Il est flatté comme c'est pas permis, ouais. Machin.
Le mec, il en peut plus, quoi, le gars.
Mais comme c'est un peu une ordure, il va le, voilà. Il va punir.
On va quand même,
lui supprimer.
Vous lui interdisez de pas, ouais. À partir de quand, maintenant?
Tu fais putain. Pour quelle raison? Moi, vous allez trouver.
Oui, c'est ça, en plus, vous trouverez bien, quoi, tu sais. Putain, la vache. Oui, c'est, en plus, le mec a même pas les, enfin, il porte même pas ses couilles,
ouais,
le mec, en plus.
Ouais, clairement.
C'est ouf, quoi. Pour un mec qui est tout cool, enfin, en tout cas, dans le film, qui est tout cool, qui a pas l'air de faire une vague plus que l'autre, le mec, il fait juste de peindre, c'est tout ce qu'il fait, quoi.
Non, mais c'est, voilà.
Après, c'est le schéma du directeur de prison, qui est toujours une grosse salope, généralement, dans les films de Zonzon, c'est toujours un
gros. Il fallait en rajouter une couche, effectivement, sur le directeur qui est un gros connard. Pour asseoir le personnage dans son, presque dans sa caricature, quoi, en fait.
Ah ben, de toute façon, c'est un trait des films de prison. Tu prends dans Haute Sécurité avec Stallone, le directeur, c'est une ordure. Mmh. Bah
dans Les Évadés aussi.
Oui, bah, tous, oui, généralement dans tous les films de Zonzon, le directeur, c'est un gros bâtard. C'est jamais un gars qui est feu, qui est cool, qui est là pour aider les gens. Non, c'est un gros enculé, le mec. Donc là, on n'échappe pas à la règle du film de Zonzon, quoi.
Effectivement. Est-ce qu'on a d'autres choses encore à dire sur ce film ?
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
C'est vrai qu'on a été assez rapide, mais parce que voilà, bizarrement le film est pas si court que ça. Et c'est deux heures et c'est
deux heures.
A priori, c'est dû au montage de.
C'est deux heures.
Ouais, une heure cinquante.
Ouais, non, mais un peu aussi. Voilà.
Mais et a priori, c'est dû au montage de Eastwood.
Ouais, ça devient un truc comme ça. Oui. Alors par contre, je sais.
Ouais, Siegel, il fait des films plus courts.
Enfin, normalement, Siegel, ils sont plus courts, apparemment, je crois, c'est ça. Donc ouais, là, après, honnêtement, les deux heures, elles passent bien. Moi, tu te fais jamais chier, tu regardes pas ta montre, y a pas de problème. Tu rentres dedans facile, en plus. Et puis, bah, quoi, il se fout, quoi. Putain, il pue tellement la classe, ce mec. Je trouve que ça lui va bien, ça. C'est des rôles qui lui vont vachement bien.
Il était pas vieux. Ouais, il avait déjà quasiment années 70.
Mais il a déjà 50 balais. Non, attends. Bah si, il est de 30. Il est de 30. Donc,
oui, il a 49 ans, pardon. Ouais, ouais. A priori,
il est 49 ans,
où il se balade à Walpé dans le couloir.
Il a déjà 50 balais, c'est
ça. Mais c'est totalement lui, il n'y a pas de souci. Mais ça a fait jaser la ménagère,
ouais, je pense que c'est
de
lui,
moins de 50 ans.
Il n'y a pas de souci.
Aux États-Unis, oui. Elle trouvait.
Tu sais que pour 50 balais, le mec, esthétiquement, il est gaulé, hein, quand même.
Ah bah c'est comme Brad Pitt qui répare, oui, son antenne télé dans le dernier Tarantino.
Oui, ouais, c'est ça. Après,
alors qu'il a 60 ans.
Pareil, toutes les cascades, c'est les acteurs qui les font dans le film. Il n'y a, oui, pas de doublure cascade.
Quand ils descendent le long de l'espèce de gouttière,
de la gouttière
et tout machin,
enfin, ouais, l'espèce de gouttière,
ouais, c'est eux qui.
C'est eux.
C'est eux.
C'est pour le coup, c'est pas que Eastwood, c'est Ward et et Thibault.
Et Thibault, et ça a fait. Mais les acteurs ont dit non, c'est bon, on va le faire. Et Seagal était moyennement.
Les assurances, ça fait. Chaud.
Bah oui, ouais. Forcément.
Et merde, les assurances, ça pique, quoi.
Oui, mais comme Eastwood avait fait ses cascades dans Inspecteur Harry.
L'inspecteur Harry.
Ouais, voilà.
Oh, dans Doudur Dingue et ça va cogner, je pense que c'est lui qui les fait aussi, ses cascades, non?
C'est lui qui se bat?
Non, je sais pas, hein, je pense, mais.
Parce que les. Je sais pas. Autant de. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu Doudur et Dingue, mais.
Ouais, pareil, ça fait longtemps. Ouais,
mais pour moi, les combats sont relativement bien filmés. C'est en gros,
c'est un bon souvenir de bagarre, de bon boxe de rue, ouais.
Comment les fights à la fin, à chaque fois, là, il est long. Et, j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui,
Après, c'est vrai que ça fait longtemps. Alors, le problème, c'est que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et des fois, j'ose pas les relancer parce que j'en ai une très bonne impression.
Tellement bon souvenir.
Et ça me fait un peu peur en me disant, ça se trouve, ça va être un petit peu kitschou tout plein, quand même. Avec signe à la droite, Clyde et compagnie, ouais, voilà. je me dis, bon, moi, j'en ai un très bon souvenir d'avoir vu ça jeune et j'adorais ça. Et je me dis, des fois, est-ce qu'il faut le remater ou pas?
Ah, mais je sais pas. Je crois que Doudou est dingue, je l'ai vu, j'avais 11 ou 12 balais.
Ah, je vais dire pareil, c'est
putain, quand Laurent Houtan il casse les bagnoles là des flics ou des fédéraux là, mais j'étais mort de rire, j'en pouvais plus de voir ça.
T'as le clignotant là, s'il y en a à droite, Clyde, et puis
oui,
il sort, il met une patate au motard.
Putain, mais ouais, mais les motards qui passent sous le goudron et tout, ouais. Et les mecs sont obligés de les épiler.
Les bons motards nazis et tout.
Les L110 version Wish carré pour tirer plus un poil sur le caillou.
J'en ai des super souvenirs, mais j'ose tellement pas. On se dit, ah, putain, ça se trouve, ça va être tellement à chier, quoi. Alors bon, il faudrait que je les refasse quand même. Je crois qu'il y a eu des rééditions il y a pas longtemps en plus. Hein. Faudrait que je m'entende. Mais c'est vrai que ça me fait peur des fois. Je me dis, ah merde, j'ai pas envie de.
C'était l'année dernière, j'ai regardé Bronco Billy, tu vois, l'année dernière. Bon, quand tu vois ça pour la première fois, c'est compliqué, hein. On va pas se mentir. Donc, mais ensuite, c'est comme nos films de quand on était gamin, quoi. Tu vois, les revoir aujourd'hui pose pas de problème.
Des fois, non, oui. Parce que quand c'est des films que t'as vu jeune, tu t'excuses.
Tu gardes cette insouciance que t'avais quand tu les as découverts. Donc voilà, c'est toujours plus facile, quoi.
Bah, tu le vois, t'arriveras jamais à le voir avec l'œil. Tu prendras l'objectivité, ce qui est normal. Moi, il y a des films que j'adore et je sais reconnaître que c'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon dedans. J'ai pas de problème avec ça. Ça restera toujours des films bonbon, que, toi, t'as aimé. C'est comme on disait sur date de sortie avec, par exemple, les Y a-t-il un flic, tu vois. Tu les vois maintenant, tu fais bon, mais moi, de les avoir vus à l'époque, ça fait toujours rire, quoi. Il y a des trucs. C'est con, hein, tu sais, machin, mais ça marchera toujours. Alors qu'effectivement, si tu découvres ça maintenant, je pense que c'est plus compliqué.
Grosse pensée pour Jess, évidemment, qui avait découvert.
Donc, bon. Oui. Ben c'est pour ça, c'est ce que j'avais dit. Hein. Tu les as, non, tu découvres. Ouais, si tu découvres ça maintenant, je peux sans problème entendre que ça peut être plus compliqué. Ça, c'est sûr,
ouais. Ouais, clairement.
Mais c'est oui, voilà, après, c'est le souci des films d'enfance, quoi. C'est sûr, quoi. Bon, après, sur du bon Eastwood des années fin 70-80, il y avait quand même des trucs pas mal. Il y a eu des gros nanas, hein, comme on disait, il y a des trucs, moi, j'aime bien.
Ouais, ils étaient
même les derniers Harry.
Ouais, ils étaient
assez sûr, un
ils
petit
étaient,
peu.
Ils étaient moins bons. Maintenant, moi, je les avais regardés, les cinq, je les avais regardés dans une semaine, tu vois, quasiment à la suite, les uns des autres, un chaque soir. Bon, voilà, ça se...
Faudrait que je me les refasse, moi, parce que ça fait longtemps... moi, j'avais commencé, comme je l'ai dit, moi, c'est... Alors, c'est pas par le 4, c'est par le dernier qui avait été fait, moi, que j'avais commencé. Parce qu'à l'époque, quand je l'avais vu... j'étais jeune, j'avais 11-12 ans, donc... Et moi, j'étais dans ma phase Guns N' Roses, tu vois, j'étais à fond dans les Guns N' Roses, tu vois. Et ils jouent dans le dernier Inspector Harry, ils jouent dedans, ils jouent rôle, ils font des guests, machin.
Ah oui, c'est vrai, ouais, maintenant que tu dis, ouais.
Forcément, j'avais vu Harry. Donc,
ça te parlait.
À l'époque, forcément, j'ai commencé par celui-là. Quoi. Donc, bon, tu commences pas par le meilleur pour le coup, mais bon. Puis après, tu rattrapes.
C'est pour ça que t'as bien aimé Terminator 2 aussi, c'est parce qu'il y a du Guns N' Roses dedans, quoi.
Ah bah oui, c'est eux qui font la BO, là, carrément, ouais, pour le coup. Donc, que t'es très bien, Yukubi, maintenant. C'est une très bonne chanson. Ah oui, mais comme dit, dans True Lies, le collègue de Schwarzenegger, je sais plus son nom, là, il dit, mais de toute façon, maintenant, c'est plus vous les parents, c'est Axel Rose et Madonna. Donc voilà.
Oui, il avait raison.
Donc, à l'époque, le rock dans toutes les BO, c'était bien ça. Hein,
bah
c'était autre chose que les trucs que vous postez sur le Discord musique. Hein,
je vois pas de quoi tu parles. Les gens iront sur le Discord musique de date de sortie pour.
Voilà, vous reconnaîtrez l'homme qui a du goût et les autres.
on reconnaîtra l'homme qui a du goût et les trolls qui viennent autour mettre une merde chaque fois qu'ils rajoutent un truc bien.
Voilà, c'est ça. Donc, après, Francky Vincent, c'est drôle. Enfin, Jess, elle va pas trouver ça drôle, mais.
Non, c'est drôle. Évidemment. On lui posera la question en fin de semaine.
Est-ce que tu aimes du cul du cul?
Tu veux toucher mon zizi? Est-ce que ça t'a plu?
Voilà. Oh, mon Dieu.
Est-ce qu'on a fait le tour? On a quand même.
Oh, je pense qu'on est pas mal.
Bien fait le tour de la question. Ouais.
Après, bah, on va conseiller. Hein. Enfin, moi perso, je conseille. Ouais. Hein, regardez.
Oui, oui. C'est vrai. Si vous l'avez pas vu, ouais, ouais. C'est. Bah, tu vois, je regardais Sens Critique, où il y a un top des films de Zonzon. Tu vois. Bon, bah, il arrive.
Ah bah voilà.
Il arrive troisième.
Et t'as quoi dans le top? Dans le top 3? Bon, t'as Les Évadés, je pense.
Bah ouais, Les Évadés, c'est premier. Ouais. Mais tu sais, Les Évadés, ils sont premiers quasiment dans tous les tops IMDb, oui. Machin et tout de partout. Et le deuxième, c'est La Ligne Verte.
Ah putain, oui, on avait oublié La Ligne Verte.
Ouais.
En film de Zonzon. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié celui-là.
Voilà, non, ensuite, bah, t'as des trucs très classiques, hein, Papillon, Dog Pound, Bronson, La Grande Évasion.
Ah oui, Bronson. Bah, après, ouais. Moi j'aime bien, mais en moins haut du panier, bah, t'as les Undisputed. Hein.
Donc, ça ne me parle pas.
Un seul deviendra invincible. Alors le premier, c'est avec Wesley Snipes et Vin Grams. Et après, à partir du 2, t'as Michael J. White et Scott Adkins. Où joue le fameux Yuri Boyka. T'as jamais entendu parler, okay. Yuri Boyka?
Ah non.
Ouais, le 1, tu peux le regarder. Il est gentil avec Wesley. Par contre, le 2, je te le conseille. Hein. Le 2 et le 3, je te les conseille. Parce que là, Adkins, ça bagarre. Hein.
D'accord.
Bagarre en prison, tu vois. Combat clandestin en prison. Et bagarre. Donc ça, c'est du bon film de Zonzon, comme j'aime bien ça. Ça réfléchit pas beaucoup, mais alors ça met des grosses lattes dans la gueule, des gros high kicks dans la bouille. Bah ouais, attends, il faut que je te trouve une reco Zonzon Brigitte Lahaie aussi.
Alors ça, je te la laisse.
Ah bon? C'est pas toi qui as un autographe de Brigitte Lahaie?
si, c'est un pote de podcast qui m'a envoyé ça.
Ah ouais.
Faut que je remette la main dessus parce qu'il faut que je l'encadre maintenant que j'ai un vrai bureau et tout. Ah ouais, faut que à côté de l'ordinateur, c'est évident, t'as raison.
Mais bien sûr.
Oh putain, classé 30e des films de Zonzon sur Sens Critique, il y a Fortress, avec Christophe Robert.
Oh putain, mais il est trop bien, Fortress. Il est trop bien, le premier Fortress.
Au secours. Le 2,
bof. Mais le premier, il est vraiment bien, le premier.
Bah tiens, à propos de reco, Storm, est-ce que tu as une reco à nous donner. Alors, c'est pas obligatoirement une reco film de Zonzon, hein. ça peut être autre chose.
Alors, je vais quand même donner je l'ai pas vu, mais bon. Reco film de Zonzon, Brigitte Lahaie, le corps et le fouet. Voilà. donc un film pour adultes suisse de style Woman in Prison.
Ah, voilà. D'accord.
En reco, qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que j'ai vu ces temps-ci?
Shrinking peut-être.
Non, la femme a regardé, elle aime bien. M'a dit c'était cool. Moi les séries j'ai du mal, j'ai déjà pas le temps pour regarder tout ce que je veux et les séries j'y arrive pas, moi ça me prend trop de temps. Non, j'ai vu. Merde, j'ai un trou de mémoire. Ouais. Le réveil de la momie, j'ai vu. Qu'on m'avait. Alors
le qui a été fait par c'est la. Enfin c'est le troisième en fait, c'est la suite là de Stephen Sommers.
Non, pas du tout. Il est sorti cette année. C'est fait par celui qui a fait. J'ai un trou de mémoire. C'est celui qui a fait le remake d'Evil Dead. Pas le remake, le Evil Dead Rise là, celui qui était sorti il y a 2-3 ans déjà là maintenant.
D'accord.
J'ai plus son nom au réal, mais bon. Au début, c'est j'en attendais rien de ce film. Ouais. Honnêtement, je me suis dit, bon, ouais. Et oui, c'est Lee Cronin, voilà, le réal. D'ailleurs, en VO, le film s'appelle Lee Cronin The Return of the Mummy, ou je sais plus quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit okay, d'accord. Donc, j'en attendais pas grand-chose. Voilà, Lee Cronin The Mummy, il s'appelle en VO. Et Le Réveil de la Momie en VF. Et bon, j'avais vu la bande-annonce. La bande-annonce, ça allait. Mais bon, les bandes-annonces, maintenant, je me méfie tellement.
Oui. Il faut se méfier.
Bon, voilà. Et donc j'ai pas voulu bouger mes fesses et j'ai eu les retours et j'étais très étonné d'avoir beaucoup 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 de bons retours du réveil de la momie.
OK.
Donc je l'ai maté. Et ben effectivement, c'était pas mal. Alors à la limite peut-être le reproche que je pourrais lui faire, et toi je pense que c'est déjà de base ce que tu y ferais, c'est qu'il est long. Je crois qu'il fait quasi 2h20, je crois, si mon souvenir est bon.
Ouais, ça commence à durer, ouais. Ouais.
Ouais, 2h14. Le problème, c'est que ouais, les films longs, je commence à avoir du mal. Bon là, ça va parce que le film est bien foutu.
Non, mais
ouais,
quand ça raconte quelque chose, j'ai pas de problème. Voilà.
Ça va. Oui, moi non plus. Mais j'ai l'impression que tout est tout le temps long
et
maintenant.
Et que quand
tu
finis ton film et que tu dis waouh, putain, ils auraient pu couper 20 ou 25 minutes. Là, tu te dis ouais, c'est.
Là, ils auraient pu en enlever un petit peu. Mais ça va, ça passe bien. Et effectivement, le film, c'était une bonne surprise. C'est bien rentre dedans. Et puis, alors, ça part au début sur un espèce, tu sais pas trop, sur un espèce de film de momie, pour le coup. Mais qui est un peu bizarre, parce que t'as un espèce de réveil de momie. Ça, tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a un mec qui meurt quand il y a le réveil de la momie. Ça coupe. Et puis après, tu te retrouves avec une famille, donc avec un qui est elle qui est infirmière et lui qui est reporter. Donc et ça se passe en Irak, si j'ai d'accord. pas de bêtises. Oui, pendant la guerre. Et ils ont leurs deux enfants et leur fille va être enlevée. Et ils vont pas la donc non, c'est en Égypte, c'est au Caire, c'est pas en Irak, c'est en Égypte, j'ai connerie. Et donc elle va être enlevée et ils vont faire des recherches, ils vont pas la retrouver. Et en fait, ils vont la retrouver 6 ans après la 6 ans ou 10 ans. Enfin bon, 6 ou 10 ans après, je sais plus exactement. Elle va être retrouvée donc par les autorités égyptiennes. Ils vont récupérer leur fille et là ils vont récupérer leur fille dans une espèce d'état moitié momifié, vivante hein, mais qui ne parle plus rien. Et en fait, ça va partir sur un espèce de film de possession, mais avec des entités égyptiennes. Donc pour le coup, c'est sympa, tu vois. C'est pas la possession du démon à l'exorciste catholique, vite la croix, Jésus, Jésus, tout le monde va. Donc c'est pas mal. C'est assez rentre dedans. Il y a des scènes vraiment dégueulasses. C'est assez malsain parce que honnêtement, la gamine, putain, la pauvre, elle a mangé. Hein. C'est vraiment bien. Ouais, bien rentre dedans. Donc c'était une bonne surprise. Honnêtement, j'aurais pas mis un copec là-dessus.
D'accord.
Et c'est vraiment les retours positifs qui m'ont fait. Et c'était une bonne surprise. En reco, okay. Je peux vous conseiller. Après, en petit coup de gueule, parce que moi, comme je suis une grosse saucisse, là, j'ai appris donc les Maîtres de l'Univers ne sortira pas chez nous au cinéma. Je suis complètement dégoûté. Quoi.
c'est l'info date de très peu de temps alors parce que.
Ouais, non, c'est tout frais, ouais, ah, ouais. Ça doit faire deux, trois jours, ah, en oui, fait, ils ont décidé de pas le sortir en France, parce qu'ils jugeaient que la licence était pas assez porteuse pour la France. Alors, dans notre okay. malheur, il arrivera directement sur Prime. Comme t'auras pas besoin de respecter la chronologie des médias dans ce cas-là, on risque de l'avoir assez rapidement après la sortie en salle, sur Amazon Prime.
Ah bah, oui.
Alors, j'avoue que j'étais un petit peu déçu, parce que j'aurais été en tant que saucisse, moi... 46 ans, j'ai grandi avec Musclore, forcément, en tant que grosse saucisse, j'aurais été, hein, j'ai acheté le collector avec de l'ungraine et tout, la grosse saucisse, quoi, tu vois. Donc, j'aurais été en courant.
Bien sûr.
Comme un gros con, j'aurais gueulé après, hein, que c'était à chier.
Ah, mais c'était fait, comme un gros con, quoi. C'était bon. Tellement pas bon.
Voilà. Ben, il a le mérite d'être drôle, maintenant.
C'est vrai, oui.
Maintenant, il est bien fun. C'est devenu un très bon nanar. Alors. Là, j'ai le pote qui m'a dit qu'il y a déjà eu des retours. Apparemment, contre toute attente, ça serait pas si dégueulasse que ça, le Maître de l'Univers. Bon, je lui dis, bon, j'attendrai de voir quand même. Même, j'y crois pas une seule seconde, mais bon.
Mattel, déjà, ils ont pas dû pomper 90% du budget du film en droit d'auteur. Donc,
Là, pour le coup
maintenant, ils savent que comme ils vendent plus de jouets, ils vont être moins gourmands.
c'est pas sûr, parce que le problème, c'est que, où ils ont pas tort, c'est vrai que nous la licence les Maîtres de l'Univers chez nous c'est mort. Hein. Mmh. Bah, je veux dire ça c'était ouais. Voilà quand dans les années 80 et tout bordel. Après chez nous c'est tombé à la mort. Il y a encore oui. les anciens comme moi, les trucs comme ça qui mais sinon voilà. Aux États-Unis par contre c'est toujours aussi costaud.
Ah oui.
Hein. Ça
ah
n'a
oui.
jamais c'est qu'à le dire, ça a jamais débandé là-bas les Maîtres de l'Univers. Ah ouais, aux États-Unis c'est toujours ils ont toujours des gammes de jouets qui
ah
ressortent
ouais.
régulièrement
ah, c'est marrant,
par Mattel,
ah ouais,
par d'autres c'est... marques à qui ah ouais non aux États-Unis, c'est hyper vivace, c'est toujours vivace les Maîtres
d'accord.
de l'Univers. Bah tu vois, t'avais Kevin, c'est Kevin Smith qui avait relancé une série animée sur Netflix, New Eternia, je crois que ça s'appelait un truc comme ça. Bon, moi j'ai pas accroché plus que ça, mais bon ouais non c'est ça a toujours été vivace et ça reste toujours vivace aux États-Unis. C'est vraiment une histoire. 180 millions de budget quand même, hein, les Maîtres de l'Univers. Donc, c'est que t'espères que ça va marcher quand même.
C'est sûr que c'est pas le budget de celui des années 80.
Donc, quand tu mets ça sur la table, c'est que quand même t'espères un minimum que ça va marcher ton truc. Hein. Donc, ce qui est assez
hallucinant. J'arrête les taux.
C'est peut-être ça. Ouais. Oh putain, oui, sérieux.
Oui, il y a J'arrête les taux dedans.
J'avais oublié ce truc-là, ouais, putain. Mais tu te dis, vu qu'ils misent, honnêtement, je pense qu'ils misent 90% du marché américain. Donc, pour mettre 180 millions de patates en se disant que notre blé, on va le faire quasi qu'aux États-Unis. Putain, c'est ouais. qu'ils y croient quand même. Donc voilà.
Ben écoute,
ça, c'était mon petit goût.
Ok. Ouais, écoute, on verra au moment de la sortie ce que ça vaut, effectivement. Alors moi, je vous aurais bien recommandé La course à la mort avec Statham, parce que c'est quand même un film de zonzon qui est quand même.
C'est vrai, c'est un film de zonzon aussi.
Qui est très drôle, qui est très con,
qui
est excessivement drôle dans toutes ses outrances. Alors. Il y a Roman dedans, hein, désolé Flo, hein, mais voilà.
c'est en prélude à
Fast and Furious. Il jouait déjà un mec qui conduit des voitures rapides et furieuses. Mais voilà. Rapide mais non, on va rester dans l'univers de la voiture. Je vais vous recommander une série documentaire qui est dispo sur Canal+ et qui s'appelle Enzo, le mythe Ferrari. Série documentaire qui retrace toute l'histoire
de Enzo Ferrari, du
moment où il faisait courir ses voitures qui étaient en fait des Alfa Romeo rebadgés, et jusqu'au jour où il a créé son entreprise, où elle était à deux doigts de disparaître et où il l'a sauvée. Ça, c'est pour les cinéphiles, c'est le moment du film de Michael Mann. Ferrari, et puis derrière le rachat par Fiat, derrière a donné des moyens à son entreprise pour devenir la multinationale du luxe en fait, hein, qu'elle est devenue.
C'est ouf quand même que tu te dis que c'est Fiat qui a été propriétaire de Ferrari quand même, ça paraît hallucinant.
Mais qu'il est toujours.
Oui.
Qu'il est toujours maintenant par l'intermédiaire d'un groupe beaucoup plus gros maintenant.
Oui, parce que Fiat, ils sont avec je sais plus qui maintenant.
C'est Stellantis, donc c'est avec Stellantis. C'est Stellantis avec Peugeot, Citroën.
Il y a du monde maintenant chez Stellantis.
Ouais, il y a du monde maintenant. Ah oui, oui, pas de soucis. Même si il a été un petit peu plus indépendant puisqu'ils ont introduit la bourse, de voir que effectivement elle a été à deux doigts de disparaître et que elle est devenue aujourd'hui de par le mythe.
T'as eu pas mal de marques de luxe de bagnoles comme ça qui sont passées très loin à chaque fois de la banqueroute. Je crois que Lamborghini à un moment ça avait été chaud patate aussi, hein.
Lamborghini ça a été pareil, et c'est marrant, ils en parlent de Lamborghini
dans
ce documentaire là parce que forcément les deux sont liés, parce que Lamborghini a créé des voitures sportives et des voitures de course alors qu'il était fabricant de tracteurs,
parce qu'il faisait même des chaudières.
Ouais. parce qu'un jour il est allé trouver Enzo Ferrari pour lui dire, donc ça veut dire qu'il vendait déjà beaucoup de tracteurs pour pouvoir s'acheter des Ferrari, le gars, hein. Et il dit je trouve qu'il y a un souci sur vos boîtes de vitesse quand même, c'est pas ce que vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça, et Enzo Ferrari, avec toute l'intelligence qui le caractérisait, l'a regardé de très haut avec un dédain absolu, voilà, et dit on a un fabricant de tracteurs,
t'as qu'à aller faire tes bagnoles. Mais t'imagines quand même les baloches du type, quoi. Comme tu dis, le mec est fabricant de tracteurs, ta bagnole, là. C'est ouf, quoi. Mec, t'imagines, toi, t'arrives chez Rolls demain, tu fais, honnêtement, t'es suspate sur ta Rolls, c'est bof-bof, quoi. C'est bof-bof, mec.
Je suis le patron de Johnny. Écoute, tes boîtes de vitesse, elles sont pas top.
Ouais.
Mais c'est te dire que comment le mec a créé une des plus grandes marques.
Les plus grandes rivalités, c'est souvent ça.
Enzo Ferrari,
c'est des guerres d'ego. Tu prends Metallica, Megadeth, c'est exactement ça.
C'est guerre d'ego.
C'est le Mustang qui se fait virer, qu'a la haine contre tout le monde, que le monde entier, qui crée Megadeth juste par rage pour dire non, je vais y arriver, sans vous, je vais vous bouffer, quoi. C'est ouf, c'est duel d'ego de. Et ça marche, quoi. Les mecs s'en sortent, quoi. Et derrière, ouais, tu te retrouves avec Lamborghini, quoi. Et les mecs s'en sortent, quoi. Et les mecs, maintenant, Lamborghini, quoi.
Et ouais, concours de...
Comme quoi.
Gros concours de quéquettes, et ça fonctionne.
Après, si en film de zonzon, j'aurais pu vous conseiller quand même, pour ceux qui n'ont pas vu, Prison, je vous le conseille quand même, donc de Rémi Harling avec Viggo. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un petit film d'horreur, que pas de prétention, il n'y a pas trop de pognon, mais il est sympa. Et c'est le premier film aux États-Unis de Monsieur Rémi Harling, donc.
Rémi Harling.
Qui a une belle édition d'ailleurs, qui avait été réédité avec une belle édition. Donc voilà.
Bon, on va suivre ça.
Ça sera pas pour toi, Thomas, je te le dis. À moins que. Mais,
ah, mais là, tu vois, j'allais le mettre dans ma watchlist. Ah, bah,
non, mais tu peux, mais après, je me dis, à moins que, hein, des fois, je peux avoir une surprise.
Hein. Ah, parce que c'est moitié horrifique?
C'est un petit peu, oui, oh, c'est gentil, oui, c'est avec une histoire de fantôme. En fait, c'est un condamné à mort, comment dire, à tort, qui se fait exécuter par forcément un directeur qui est un peu véreux. Enfin, tu vois le truc, et puis, bah, qui va venir se venger.
D'accord. Ok. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver les épisodes du podcast sur notre site en écoute directe et téléchargement www.babygraveur.eu. Et vous pouvez également nous suivre sur Blue Sky @babygraveur. Storm, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
Eh ben, comme tu l'as dit au début, donc avec toi et Jess et Flo, donc sur date de sortie. Et puis avec Jess, pour l'antre de la peur.
Double dose de Jess,
effectivement.
Mmh. Et donc, c'est courageux.
Prochain épisode. Oui, c'est courageux, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. je rigole bien avec Jess. J'aime bien. Donc,
ouais, c'est cool. Tu me disais que la semaine allait être chargée, que vous enregistriez l'antre, donc tu peux lâcher.
Oui, je peux. C'est donc, pas secret. Non, de toute façon, je crois qu'on avait même annoncé le titre du film sur le dernier.
Ah, d'accord.
Donc, okay. On enregistre sur Reanimator. Donc ça, c'est un petit cadeau que j'ai fait à Jess. Parce que là, je vais l'emmener dans mon domaine à moi, mes films d'horreur des années 80. Où là, je sens déjà que ça va être très compliqué pour elle. À moins que, peut-être une surprise, on verra.
C'est ça qu'on aime. Et tu sais ce qui rime avec Reanimator?
Non, Terminator.
Réfrigérateur.
Le réfrigérateur. Ouais. Non, mais on va le faire. Elle y croit pas, mais on l'aura. Mais on le fera. On va le faire à quatre. Ça, c'est sûr. On va le faire avec plein de monde. Enfin, je sais pas. Il va falloir qu'on fasse le réfrigérateur.
Dans date de sortie, ça peut être drôle.
C'est faut le voir hein, quand même hein. Faut l'avoir vu le réfrigérateur avec Juan le plombier qui attache le frigo à l'aide d'une espèce de triplette géante en lasso. Enfin, là, c'est quelque chose. Il y a des ça mecs qui disent putain la vache, ils font des trucs.
Ils osent.
C'est fou. Oui, bah écoute. Donc, et le pire, c'est que le truc est maintenant. Et moi, je l'avais vu à l'époque, c'était passé sur Canal+, ce truc-là. C'est pour te dire.
Ah oui, d'accord. Ah oui.
Et je l'avais, alors à l'époque, je l'avais enregistré en VHS. Et ben maintenant, à trouver, c'est la croix et la bannière parce que le truc coûte un putain de bras. Mais quand je t'ai dit un putain de bras, je crois que l'édition DVD doit coûter un truc genre 80 ou 90 balles, quoi.
Oh la vache.
Et en fait, le plus dur, c'est de le trouver maintenant. Je t'avouerai que alors ça doit chercher. J'ai pas accès à 10 000 tontons des États-Unis. Peut-être que d'autres personnes l'auront, mais même avec le tonton des États-Unis, c'est pas facile à trouver.
C'est chaud. D'accord. Donc,
ouais.
Ok, et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur les podcasts et vous trouvez ça drôle vraiment sur les comédies françaises, date de sortie sur plein de films improbables, et sur mon compte Blue Sky, Top The Lord, où je parle rugby, ciné, 20 foot, US, Formule 1, tout plein de sujets futiles et totalement inutiles.
Storm ouais, quoi, cuisine aménagée, menuret, grillage, tout, voilà.
Ouais, jardinage.
Et vous trouvez ça donc vraiment, vous avez déjà le prochain titre de film ou pas encore?
Oui, il a été balancé. Il n'est pas tourné.
Ah, sur le dernier épisode? J'ai pas encore eu le temps de les... J'ai pas écouté encore le dernier. Ah putain, il va falloir, je suis en retard, de toute façon, je suis en congé, donc franchement, je suis en retard.
comment
j'ai pas le temps.
T'as pas changé de Jérôme Commandeur?
Ah, tiens, curieux. Alors, voilà. On va voir si je peux voir. Moi, j'aime bien Jérôme Commandeur. Alors, celui-là, je l'ai pas vu, par contre.
Voilà. Mais moi, je l'avais pas vu. Je voulais lui redonner
peut-être
une chance.
Peut-être essayer de le mater avant, alors
hein.
Bah, moi, je l'aime bien, Jérôme Commandeur. Alors, il me fait rire, en tout cas. Enfin, dans les films, pas forcément, mais je trouve qu'en sketch et tout, il est bon. Enfin, moi, il m'a fait beaucoup rire.
Eh ben, faut qu'on se trouve rapide, là, une date, là, dans les prochains jours avec Flo. On va l'enregistrer pour qu'il sorte le 15 juin.
D'accord.
Eh bien, Storm, comme toujours, ce fut un plaisir.
Bah, merci à toi de m'avoir accueilli.
Avec grand plaisir.
Et puis, pour parler d'un bon East Food, moi, ça me dérange pas.
Voilà, ça va. Toujours du bonheur. Eh bien, salut à tous.
Bye bye. Ce premier film, c'était un film d'horreur, Creep, qui était pas trop mal dans un métro. Il a Triangle, si t'as pas vu,
Creed,
je te conseille.
Creed le boxeur, ouais, je connais, ouais.
Ouais, non, c'est Creed, là. C'est pas Creed, c'est Creed. Oh putain, Jess qui connaît pas le chocolat Van Houten, quoi. Putain, ça vient des Pays-Bas, ça a été racheté par les Belges, ouais.
Elle est belge, elle connaît pas le chocolat Van Houten, mais donc c'est bien ce qu'on dit avec Flo. Elle est vraiment devenue anglaise.
Hein. Ah oui, là, clairement. Ouais.
Tu peux pas.
Parce que j'ai dit.
Moi, je veux bien lui trouver des excuses, mais à un moment, c'est pas possible.
Ah bah quand même, Van Houten, quoi, merde.
Caris Van Houten. Ouais, le chocolat, ouais, je connais.
Bah ouais, je connais, ouais. Je sais pas, j'ai pas la ref. J'ai dit, c'est pas vrai.
What?
J'ai dit, c'est une blague.